Philippe de Poitiers sourit. Ce que vous préconisez là, fort sagement, monseigneur, peut convenir à la justice royale qui agit par bras temporels, répondit-il. Mais pour restaurer les finances de l'Église, je ne vois guère.
Les amendes, répéta Duez. Mettons impôt sur les péchés. Ce sera source intarissable. L'homme est pécheur par nature, mais plus disposé à faire pénitence de cœur qu'à faire pénitence de bourse. Il éprouvera plus vivement le regret de ses fautes et hésitera davantage à retomber dans ses errements si une taxe accompagne nos absolutions. Qui tient à s'amender doit acquitter amende.
Est-ce une plaisanterie, pensa Poitiers, qui n'était pas complètement accoutumé à l'inventive syllogistique du cardinal? Et quel péché voudriez-vous taxer, monseigneur? Demanda-t-il.
D'abord, ceux qui se commettent dans le clergé. Commençons par nous réformer nous-mêmes avant d'entreprendre de réformer autrui. Notre sainte mère est trop tolérante aux manquements et abus. Ainsi l'on sait que clergé ou prêtrise ne peuvent être conférés à des hommes estropiés ou difformes. Or, je voyais l'autre jour un certain prêtre Pierre, qui est auprès du cardinal Caetani, et qui a 2 pouces à la main gauche.
Petite perfidie envers notre vieil ennemi, se dit Poitiers.
En vérité, poursuivit Duez, les boiteux, manchots, eunuques qui cachent leur disgrâce sous un froc et touchent bénéfice d'église sont légions. Allons-nous les chasser de notre sein, ce qui, sans effacer leurs fautes, n'aurait pour résultat que de les réduire à misère et désespoir, et sans doute les pousserait à rejoindre les hérétiques de Toulouse ou autres confréries de spirituels. Permettons-leur plutôt de se racheter. Or, qui dit rachat dit paiement.
Le vieux prélat était parfaitement sérieux. Son imagination, au cours de ses dernières nuits de veille, avait échafaudé tout un système fort précis sur lequel il préparait un mémoire et qu'il soumettrait, disait-il modestement, au prochain pape. Il s'agissait de l'institution d'une sainte pénitencerie, sorte de chancellerie du péché qui délivrerait des bulles d'absolution moyennant des taxes d'enregistrement perçues au profit du Saint-Siège. Les prêtres estropiés pourraient obtenir quittance à raison de quelques livres par doigt manquant, le double pour un œil perdu, autant pour l'absence d'une ou deux génitoires. Celui qui se serait amputé lui-même de sa virilité devrait payer un prix plus fort. Des malfaçons ou accidents physiques. Duez passait aux irrégularités morales. Les bâtards qui avaient caché leur situation de naissance en recevant les ordres, les clercs qui avaient pris leur tonsure bien qu'étant mariés, ceux qui se mariaient secrètement après l'ordination, ceux qui vivaient non mariés en ménage de femmes, ceux qui étaient bigames ou incestueux ou sodomites, tous étaient imposés proportionnellement à leur faute. Les nonnes qui auraient paillardé avec plusieurs hommes, au-dedans comme au-dehors de leur couvent, seraient soumises à une réhabilitation particulièrement coûteuse.
Si l'institution de cette pénitencerie, déclara Duez, ne fait pas rentrer 2000 livres la première année, ah, je veux bien.
Il allait dire je veux bien être brûlé, mais s'arrêta à temps. Poitiers pensait, au moins s'il est élu, je n'aurai pas de souci pour les finances papales. Mais malgré toutes les manœuvres de Duez et malgré l'appui que Poitiers leur donnait, le conclave continuait à marquer le pas. Or, les nouvelles de Paris étaient mauvaises. Gaucher de Châtillon, faisant front avec le comte d'Evreux et Mahaut d'Artois, s'efforçait de limiter les ambitions de Charles de Valois. Celui-ci néanmoins habitait au palais de la Cité, où il gardait la reine Clément sous sa tutelle, et il administrait les affaires à sa guise, et expédiait dans les provinces des instructions contraires à celles que Poitiers envoyait de Lyon. D'autre part, le duc de Bourgogne, soutenu par les vassaux de son immense duché, était arrivé à Paris le 16 juin, 11 jours après la mort de Louis X, pour y faire reconnaître ses droits. La France avait donc 3 régents. Cette situation ne pouvait durer longtemps et Gaucher engageait instamment Philippe à regagner Paris. Le 27 juin, après un conseil restreint auquel assistèrent les comtes de Forez et de la Voulte, le jeune prince décida de se mettre en route et commanda de rassembler le train de bagages de son escorte. En même temps, s'avisant qu'aucun service solennel n'avait encore été célébré pour le repos de l'âme de son frère, il ordonna que de grandes messes fussent dites le lendemain avant son départ en chaque paroisse de la ville. Tous les gens de haut et de bas clergé étaient tenus d'y assister pour s'associer aux prières du régent. Les cardinaux, surtout les cardinaux italiens, exultaient. Philippe de Poitiers quittait Lyon sans les avoir fléchis.
« Il déguise sa fuite sous la pompe du deuil, » disait Caetani. « Mais il s'en va quand même, ce maudit. Avant 1 mois, je vous l'affirme, nous serons de retour à Rome. »